Mon compagnon, suite. Chapitre 6. Trois chiens de grande taille, à longs poils, surgirent de l'obscurité et bondirent vers nous. Charco, qui n'avait pas cessé de sangloter d'une façon convulsive, poussa un cri d'épouvante et tomba sur le sol. Je jetai au-devant des chiens le paletot ruisselant d'eau et je me baissai dans l'espoir de trouver un caillou ou un bâton. Mais il n'y avait rien, que l'herbe piquante qui me déchirait les doigts. Les chiens nous attaquèrent vigoureusement. Introduisant deux doigts dans ma bouche, je lançai un coup de sifflet strident. Les chiens s'écartèrent aussitôt, et j'entendis les pas d'hommes qui arrivaient en courant. Quelques instants plus tard, nous étions auprès d'un feu qu'entouraient quatre hommes, vêtus de peau de mouton, la toison à l'extérieur. Ils gardaient le silence, et tout en m'écoutant leur raconter mon aventure, ils nous dévisageaient d'un air méfiant. Deux d'entre eux, assis à terre, tiraient de leurs pipes de grosses bouffées de fumée. Un troisième, grand, portant une épaisse barbe noire, coiffé du haut bonnet des Cosaques, demeurait derrière nous, s'appuyant sur une trique dont la poignée n'était autre chose qu'un fragment de racine. Le quatrième, un jeune garçon aux cheveux blonds, aidait Charco, gémissant, à retirer ses vêtements. À côté de chacun de ces hommes se trouvaient des bâtons énormes. Non loin de notre groupe, la terre semblait recouverte sur une large étendue par des flocons épais de couleur grisâtre qui rappelaient la neige commençant à fondre au printemps. Mais un examen plus prolongé et plus attentif permettait de constater qu'il s'agissait de brebis serrées les unes contre les autres. Elles étaient là quelques dizaines de milliers, massées dans leur sommeil, et faisant une tache dans l'obscurité de la nuit sur la steppe. De temps à autre, il s'en échappait un bêlement craintif. Je présentai le paletot au feu afin de le faire sécher, et très sincèrement, je racontai à ces hommes par quel procédé je m'étais procuré la chaloupe. « Où est-il, ce bateau ?» me demanda un vieillard tout blanc, à l'air sévère, et qui ne me quittait pas du regard. Je le lui dis. « Va voir, Mikal !» Mikal, l'homme à la barbe noire, prit son bâton sur l'épaule et s'en fut vers la rive. Le paletot était sec, Charco voulait le mettre de suite sur son corps nu, mais le vieillard lui dit « Attends, cours d'abord autour du feu pour rétablir la circulation du sang. Allons !» Charco, au premier moment, ne comprit pas. Puis soudain, il se redressa d'un bond et, tout nu, se mit à danser un pas d'une extraordinaire sauvagerie. Il sautait comme une balle au-dessus du feu, tournoyait sur place, frappait du talon par terre, tout en poussant de grands cris et en agitant les bras. Le spectacle était à mourir de rire. Deux des bergers se tordaient par terre, s'esclaffant à gorge déployée, tandis que le vieillard, dont la figure demeurait imperturbablement grave, essayait d'accompagner en mesure la danse de Charco en tapant dans ses mains, sans d'ailleurs y parvenir. Il suivait attentivement le mouvement, hochait la tête, faisait frémir ses moustaches, tout en criant d'une voix basse « Hé, hi, ha, c'est ça, c'est ça !» Hi, ha, bouze, bouze. Dans la lumière projetée par le feu, Charco se tortillait comme un serpent, variait les poses, bondissait sur un pied, trépignait sur le sol, et son corps moite était couvert de grosses gouttes de sueur que le feu faisait rouge comme des gouttes de sang. Les trois hommes s'étaient mis à battre des mains en cadence, cependant que pour ma part, grelottant de froid, je songeais que notre équipée aurait ravi un fanatique de Cooper ou de Jules Verne. Naufrages naturels hospitaliers, danses sauvages autour du feu, tout y était. À ces pensées se joignait une certaine inquiétude sur ce que serait l'épisode le plus important de l'histoire, à savoir comment elle finirait. Maintenant, Charco était installé par terre, roulé dans son paletot, et il mangeait, tout en me regardant de ses prunelles noires, brillant d'un éclat bizarre, qui faisait naître en moi une impression assez désagréable. Ses vêtements séchaient devant le feu, accrochés à des bâtons fichés en terre. On me passa, à moi aussi, du pain et du lard salé. Michal revint, et sans mot dire s'assit à côté du vieillard. « Eh bien ?» interrogea celui-ci. « Il y a un bateau là-bas, » répondit laconiquement Michal. « Il ne risque pas d'être entraîné ?»« Non. » Ils se turent et recommencèrent à m'examiner. « Alors, » dit Michal, sans interroger particulièrement personne, « les conduit-on chez l'attaman ou bien simplement au douanier ?»«
La voilà, la fin, me dis-je. »
Personne ne répondit à Michal. Charcot mangeait en silence.
« On peut les mener chez l'attaman ou chez les douaniers. L'un est bien, l'autre aussi, » dit le vieillard après un instant de réflexion.
« Ils ont volé quelque chose qui appartient au gouvernement. Ils doivent être punis. »
« Écoute, grand-père, » commençai-je.
Mais il ne prêta aucune attention à moi.
« Il n'est pas permis de voler, certes. Ils feront pis encore s'ils ne sont pas punis. »
Le vieillard parlait avec un calme qui me révoltait. Quand il se tut, les autres inclinèrent silencieusement la tête.
« Voilà, tu as volé. Tu dois expier maintenant, puisque tu es pris.
Michal, la chose, le bateau est là ?»«
Mais oui, il est là. »
« Ah bon, la mer ne l'emportera pas ?»«
Non, elle ne l'emportera pas. »«
Eh bien, qu'il reste. »« Demain, les bateliers, en allant à Kert, ramèneront le bateau. »« Pourquoi ne se chargerait-ils pas d'un bateau vide ? Hein ? Ça va bien. »« Maintenant, pour vous, les camarades en guenilles, voilà. »« Vous n'êtes pas peureux, tous deux, non ? Une demi-verste de plus et vous filiez en pleine mer. » Que seriez-vous devenu au large, hein? Vous auriez coulé au fond comme deux cogniers. Oui, vous vous seriez noyé, voilà tout.
Le vieillard se tut et me regarda. Un sourire ironique soulevait sa moustache.
Pourquoi ne dis-tu rien, galopin?
Me demanda-t-il. J'étais là de ses tergiversations. Sans bien le comprendre, j'avais l'impression qu'il se moquait de nous.
« Je t'écoute, » répondis-je sur un ton assez mécontent.
« Alors ?» demanda le vieillard.
« Alors, rien. »«
Pourquoi as-tu l'air de me narguer ? Trouves-tu bien de narguer des gens plus âgés que toi ?» Je gardai le silence, reconnaissant à part moi qu'effectivement c'était mal. «
Désires-tu manger davantage ? » reprit-il.
« Non. »
Soit, ne mange pas, si tu ne veux pas manger. Mais pour la route, accepterais-tu du pain ?
Je frémis de joie, mais je n'en laissai rien paraître.
Oui, pour la route, j'accepterai, répondis-je d'un ton calme.
Ah ! Donnez-leur du pain et du lard pour le trajet. Peut-être avons-nous encore quelque autre chose. En ce cas, vous en donnerez également.
Est-ce qu'ils vont partir ? Demanda Michal.
Les deux autres interrogèrent du regard le vieillard.
« Et que pourrions-nous faire d'eux, dites-moi »«
Mais nous avions l'intention de les mener chez l'attaman ou au douanier, »
reprit Michal d'un ton désappointé. Charcot se remua près du feu et sortit curieusement la tête de son paletot. Il était tranquille.
« Qu'ont-ils à faire chez l'attaman ? Rien du tout. » Ils iront chez lui ensuite si cela leur fait plaisir.
« Et comment s'arrangera-t-on pour le bateau ?» continua Michal obstiné.
« Le bateau ?» répéta le vieillard.
« Eh bien quoi, le bateau ? Est-il là ?»«
Oui, » répondit Michal.
« Alors, qu'il y reste ? Ce matin, Ivashko le conduira au port. De là, on le prendra pour le ramener à Kerch. Nous n'avons pas autre chose à faire pour le bateau. »
J'observai le vieillard avec attention. Rien ne bougeait dans sa figure impassible, hâlée par le soleil, tannée par le vent, et sur laquelle les ombres du foyer se projetaient.
« Pourvu que cela ne fasse pas d'histoire !» déclara Michal.
« Cela ne peut pas en faire,
à moins que tu n'aies la langue trop longue.
C'est en les conduisant chez l'attamant que nous occasionnerions des ennuis pour eux et pour nous. Nous avons assez de nos affaires. Pour eux, qu'ils les guerpissent. Ah, c'est encore loin où vous allez ?
Reprit le vieillard, à qui cependant j'avais déjà dit le but de notre voyage.
À Tifli.
Oui, c'est loin. Tu vois, et l'attamant leur causerait encore une perte de temps.
Alors, quand arriverait-il ? Ne vaut-il pas mieux qu'ils reprennent leur route ? N'est-ce pas, vous autres ?
Soit qu'ils s'en aillent, déclarèrent les compagnons du vieillard. Quand, ayant terminé son discours, il les eut tous interrogés du regard. Lui passait les doigts dans sa barbe blanche.
« Allons, enfants, partez, que Dieu vous accompagne !»
Il eut un geste de la main.
« Et le bateau sera ramené au port, hein ?»«
Merci, vieux, » dis-je en retirant mon chapeau.
« Merci, et pourquoi ?»«
Merci, frère, merci, » répétai-je très ému.
« Mais pourquoi donc ? Quelle idée ! Je lui dis, « Allez, que Dieu vous accompagne !» Il me répond, « Merci !»
Tu avais donc cru que je t'enverrais au diable, hein ?
J'avoue que je l'avais redouté.
Le vieux eut un mouvement des sourcils.
« Oh ! » fit-il. « Pourquoi égarerais-je un homme sur une mauvaise route ? Il vaut mieux le diriger sur celle où je marche moi-même. Un jour viendra peut-être où nous nous rencontrerons. Nous nous reconnaîtrons, et peut-être alors nous faudra-t-il nous entraider. Au revoir. »
Il souleva son bonnet en peau de mouton à poils longs pour nous saluer. Ses compagnons l'imitèrent. Nous nous renseignâmes sur la route à suivre pour atteindre Anape, et nous partîmes. Charcot riait de quelque chose. Chapitre 7.
« Qu'est-ce qui te fait rire ? » demandai-je.
J'étais charmé du vieillard et de sa façon de comprendre la vie. J'étais heureux de la brise fraîche annonçant l'aube prochaine et qui nous soufflait dans la poitrine. Heureux que le ciel, dégagé de tout nuage, fût sur le point de s'illuminer, le soleil de se lever, le jour de renaître. Charcot eut à mon endroit un clignement d'yeux rusé, puis se remit à pouffer de rire. Je ne pus m'empêcher moi-même de sourire en entendant son rire joyeux et clair. Les 2 ou 3 heures passées devant le feu des pâtres, le bon pain et le lard, avaient fait que, de notre dure équipée, il ne nous restait qu'une courbature sans gravité dans les eaux, et c'était même là une gêne que la marche allait faire s'évanouir.
« De quoi ris-tu ? Est-ce d'être heureux d'en avoir échappé ? Est-ce de te sentir vivant et de n'avoir même plus faim ?»
Charcot fit un geste négatif de la tête, m'envoya dans les côtes un coup de coude, grimaça, recommença à rire, puis enfin me dit dans son infâme jargon
« Tu ne sais pas de quoi je ris ? Non, je vais te le dire. Sais-tu ce que j'aurais fait si l'on nous avait emmenés devant l'attamant ou le douanier ? Tu ne le devines pas. Eh bien, j'aurais déclaré « Il a voulu me noyer. » Puis j'aurais pleuré, alors on aurait eu pitié de moi. Tandis que toi, on t'aurait jeté en prison, comprends-tu ?
Je voulus d'abord ne voir dans ses paroles qu'une boutade. Mais, hélas, il eut vite fait de me convaincre que son plan était sérieux. Il me convainquit même si bien et si indiscutablement que je n'eus pas le courage de m'indigner devant cet égoïsme naïf, et que je sentis naître en moi un profond sentiment de pitié pour mon compagnon et pour moi-même. Quel sentiment autre pourrait-on concevoir à l'égard d'un individu qui vous déclarerait, sur un ton sincère et en souriant gaiement, ses intentions homicides à votre égard? Quelle attitude prendre lorsque cette vilenie lui apparaît simplement une plaisanterie aimable et très drôle? J'entrepris avec ardeur de lui faire comprendre ce que son idée avait de monstrueux. Mais il me répondit avec un sang-froid absolu que je ne me mettais pas à sa place. N'était-il pas muni d'un faux passeport qui rendait sa situation très périlleuse? Cette déclaration me fit faire d'amères réflexions.
« Une minute, lui dis-je. Croyais-tu réellement que j'avais eu l'intention de te noyer ?»
« Non, je l'ai cru quand tu m'as jeté à l'eau, mais quand je t'ai vu y plonger toi-même, j'ai cessé de le penser. »
Dieu soit loué, m'exclamai-je, et pour cela du moins, merci.
Il n'y a pas de quoi me remercier. C'est moi qui te dirai merci. Là-bas, devant le feu, tu grelottais. J'étais transi. Bien que le paletot fût à toi, tu ne l'as pas pris. Tu l'as fait sécher et tu me l'as donné, sans rien garder pour te couvrir. Voilà pourquoi je te dis merci. Je comprends que tu es très bon. Je te revaudrai cela quand nous serons arrivés à Tifli. Je te conduirai auprès de mon père et je lui dirai « Voilà un homme. Donne-lui à manger, donne-lui à boire. Et moi, mets-moi dans l'écurie des ânes. » Voilà comment je parlerai. Tu habiteras chez nous, tu auras une place de jardinier, tu boiras du vin et tu mangeras autant que tu voudras. Tu vivras très confortablement. C'est fort simple. Mange et bois dans la même vaisselle que moi.
Il se répandit en longs détails sur la vie très agréable qu'il m'organiserait à Tifli. Et moi, tandis qu'il me parlait, je songeais à ce qu'il y avait de profondément triste pour des êtres possédant une morale neuve, des appétits nouveaux, à s'en aller de l'avant, à s'égarer dans la vie et à trouver pour compagnons de route des individus qui leur soient totalement étrangers et incapables de les apprécier. Quelle est lamentable l'existence de ces isolés! Le vent les emporte contre leur volonté, mais ils constituent la semence féconde, bien que rarement ils rencontrent une terre fertile. L'aube paraissait. Un éclair d'or rose illuminait l'horizon de la mer. « J'ai sommeil !» déclara Charcot. Nous fîmes halte. Il s'étendit dans un trou que le vent avait creusé dans le sable sec à quelque distance de la rive. Il s'enveloppa la tête et le corps dans son manteau et s'endormit sur le champ. Je m'assis près de lui et je contemplai la mer. Elle vivait de sa vie immense et puissamment active. Les vagues, ainsi que des troupeaux, déferlaient sur le rivage et s'écrasaient sur le sable qui absorbait l'eau avec un sifflement léger. Couronnées d'une crête d'écume blanche et frémissante, les premières larmes heurtaient violemment la côte de leur masse bombée, reculaient comme vaincues, et rencontraient d'autres lames qui accouraient à la rescousse. Elles s'unissaient dans une gerbe d'écume, puis revenaient à l'assaut de la terre, qu'elles attaquaient dans un désir d'élargir les bornes de leur domaine. Des confins de l'horizon jusqu'à la grève, sur l'immensité de la mer, se formaient de nouvelles vagues onduleuses et puissantes qui avançaient, avançaient sans cesse en troupes compactes, étroitement unies par une volonté. Toujours la même. Le soleil jetait un éclat plus étincelant sur leurs crêtes et la cime des lames lointaines, à perte de vue, semblait rouge de sang. Pas une seule goutte d'eau n'était perdue dans ce gigantesque effort de la houle, obstinée, semblait-il, à un effort qu'elle comprenait. Comme si ses assauts réguliers eussent dû bientôt lui livrer la proie qu'elle convoitait. La belle audace des premières vagues, se ruant courageusement sur le sable muet, me charmait, et j'admirais comment, derrière elle, la mer entière s'avançait, la mer immense que le soleil colorait déjà de toutes les teintes de l'arc-en-ciel, la mer forte et consciente de sa puissance et de sa splendeur. Surgissant de derrière un promontoire qui s'avançait à la rencontre des vagues, apparut un grand navire à vapeur qui, se balançant fièrement sur la mer tumultueuse, paraissait défier les flots. Les lames l'assaillaient dans un élan furieux. En d'autres circonstances, sa beauté robuste, l'éclat que ses parties métalliques jetaient dans le rayonnement du soleil, m'aurait, peut-être, donné l'orgueil des hommes, ces créateurs qui savent dompter les éléments. Mais à côté de moi, était affalé un homme élément. Chapitre 8. Nous poursuivions notre route à travers la province de Tersk. Charcot avait les cheveux emmêlés. Il était vêtu de guenilles à faire peur. Et en outre, mauvais comme un diable. Cependant, il ne connaissait plus les tortures de la faim, car on trouvait du travail autant qu'on en voulait. Mais il se révéla incapable du moindre effort. Un jour, il essaya de se placer près d'une batteuse à blé pour enlever la paille. La demi-journée ne s'était pas écoulée qu'il y renonçait, les mains en sang. Une autre fois, comme nous déracinions des troncs d'arbres, il trouva moyen de s'écorcher la peau du cou avec un épieu. Nous avancions très lentement, travaillant deux jours et marchant le troisième. Le prince n'apportait aucune retenue à sa façon de se nourrir, et sa goinfrerie était cause qu'il m'était impossible d'économiser l'argent nécessaire à lui acheter quelques bribes d'un costume. Il n'avait plus pour vêtements que des trous que reliaient entre eux des pièces de couleur bigarrée. Je l'adjurais de renoncer à ses visites au cabaret des villages et de ne pas se laisser aller à des libations exagérées de vin. Mais il ne prêtait aucune attention à mes reproches. Certains jours, dans un hameau, il déroba dans mon sac 5 roubles, péniblement réunis et que je lui avais cachés, bien que mon intention fût de m'en servir à son profit. Le soir, il revint au verger où je travaillais, ivre, et escorté d'une grosse mégère cosaque, qui, en guise de salut, me cria « Bonjour, damné hérétique !» Et, comme surpris de ce qualificatif, je lui demandai en quoi j'étais un hérétique, elle me répondit effrontément « Parce que, mauvais diable, tu empêches ce garçon-là d'aimer les femmes. De quel droit le lui interdis-tu, puisque la loi le permet? Ah, malédiction !» Charcot, debout près d'elle, acquiesçait à ses paroles en hochant la tête. Il était effroyablement ivre, et chaque fois qu'il faisait un mouvement, il titubait, comme si ses membres étaient détachés. Il avait la lèvre inférieure pendante, il me dévisageait obstinément et stupidement de ses yeux sans expression. « Qu'as-tu à nous regarder? Rends-lui son argent !» cria la femme violemment. « Quel argent ? » demandai-je surpris. « Rends-le-lui ! Rends-le-lui, ou je te fais venir à la police ! Rends les 150 roubles que tu lui as volés à Odessa !» Que faire ? Cette maudite femelle, ivre comme elle l'était, pouvait être vraiment capable d'ameuter la police et les autorités du pays, qui ne sont guère indulgentes pour les touristes de notre acabit, et nous aurait fait arrêter. Qui pouvait savoir ce qu'il résulterait de cette arrestation pour Charcot et moi-même? J'entrepris donc d'user de diplomatie avec cette femme, ce qui ne fut pas très difficile. Je l'apaisai, à peu près, grâce à 3 bouteilles de vin. Elle roula par terre parmi les melons et s'endormit. Je fis coucher Charcot, et le lendemain, dès le petit jour, nous partîmes du village, abandonnant la femme avec les melons. Abruti par sa soulerie de la veille, la face boursouflée et froissée, Charcot ne cessait pas de cracher et de pousser de profonds soupirs. J'essayais d'entamer la conversation, mais il ne me répondait pas et se contentait de secouer la tête, comme un cheval épuisé. La journée était chaude et l'air était imprégné des émanations lourdes du sol détrempé, sur lequel poussait une herbe drue et lourde qui nous arrivait presque à l'épaule. Autour de nous, c'était l'immobilité complète. De la mer, semblable à un velours vert, montaient vers le ciel des parfums âcres, si violents qu'ils déterminaient des vertiges. Afin d'écourter le trajet, nous avions pris un sentier étroit où rampaient de petits serpents rouges qui se tordaient sous nos pas. Une chaîne de montagnes, à laquelle le soleil flamboyant donnait des reflets d'argent, s'étendait à l'horizon de droite. C'étaient les monts de Daghestan. Le silence ambiant engourdissait l'esprit et incitait aux rêves paisibles. Dans le firmament, des troupeaux de nuages noirs couraient à notre poursuite. Ils se soudèrent les uns aux autres, envahissant tout le ciel derrière nous, tandis que devant nous, l'azur restait clair, simplement taché de quelques lambeaux nuageux, détachés de la masse, qui nous avaient dépassés et nous masquaient un peu du ciel. Dans le lointain, on entendait le grondement d'un orage, dont les éclats furieux se rapprochaient sans cesse. De larges gouttes de pluie commencèrent à tomber. Quand elles frappaient l'herbe, celle-ci rendait un son métallique. Aucun refuge ne s'offrait à nous. L'ombre envahit toute la plaine, et la plainte de l'herbe se fit plus haute et comme apeurée. Un coup de tonnerre retentit, et les nuages frémirent, déchirés par un éclair bleuâtre. Puis l'obscurité s'étendit à nouveau sur tout, et la chaîne des montagnes argentées disparut dans l'ombre. Des torrents de pluie se déchaînèrent, accompagnés des détonations de la foudre qui se succédaient les unes aux autres, formidables, sur la steppe déserte. Sous la rafale du vent et de la pluie, l'herbe se couchait à terre avec un frémissement plaintif. Tout tremblait et palpitait. Des lueurs aveuglantes éventraient les nuages. Leurs reflets bleus faisaient flamber d'un éclat glacial d'argent la lointaine silhouette des monts, qui, lorsque les éclairs s'éteignaient, disparaissaient, comme engloutis au fond d'un sombre abîme. C'était un chaos de sons grondants, de frémissements, d'échos répercutant les roulements et leur donnant une vie nouvelle. Cela semblait la purification de la terre, souillée par le feu du ciel en fureur, et la terre tremblait de peur devant cette colère déchaînée. Charcot frissonnait et faisait entendre des grognements, comme un chien inquiet. Pour moi, j'éprouvais un sentiment de joie, comme libéré des soucis quotidiens. Je considérais cet admirable et tragique tableau de l'orage dans la steppe. Je m'exaltais en face de ce chaos fantastique. Je sentais un peu d'héroïsme envahir mon cœur, et mon âme se complaisait à cette effroyable et sauvage harmonie. J'éprouvais le besoin d'y participer, de manifester, à ma manière, mon trop-plein d'enthousiasme pour ce principe mystérieux qui triomphait des ténèbres et des nuages. La flamme bleue qui incendiait le ciel me brûlait aussi la poitrine. Mais de quelle façon m'était-il possible de traduire le trouble et l'admiration que faisait naître en moi le sublime spectacle que m'offrait la nature? Je me mis à chanter, à haute voix, de toute ma force. Le tonnerre rugissait, les éclairs scintillaient, l'herbe murmurait. Moi, je chantais, me sentant en pleine affinité avec ces bruits d'hiver. Je débordais d'enthousiasme. Et cela m'était bien permis, puisque cela ne pouvait faire de tort à personne, si ce n'est à moi. J'aurais voulu faire mienne cette splendeur vivante et puissante, cette force qui se déchaînait sur la steppe, m'anéantir en elle. L'ouragan sur la mer, l'orage sur la steppe, je ne sais rien de plus grandiose dans la nature. Je chantais donc à plein poumon, absolument convaincu que je ne gênais personne, et que personne ne pouvait rien avoir à reprendre à ma conduite. Soudain, je fus brutalement saisi aux jambes et je tombai assis dans une flaque d'eau. Charcot, la figure toute proche de la mienne, me regardait, sévère et courroucé. « Est-ce que tu es fou ? Non ? Alors tais-toi, cesse de crier, sinon je t'arracherai le gosier, m'entends-tu ? » Je demeurai stupide, puis je lui demandai en quoi je le gênais. « Et tu m'épouvantes, as-tu compris ? L'orage rugit, Dieu parle, et tu oses chanter. Quelle opinion as-tu donc de toi-même ? » Je lui répondis que j'avais bien le droit de chanter si cela me plaisait, ainsi que lui d'ailleurs. « Et moi je ne le veux pas !» déclara-t-il énergiquement. « Eh bien, ne chante pas !» lui dis-je. « Mais toi non plus, ne chante pas !» reprit-il d'un ton furieux. « Si !» « J'ai envie de chanter. »« Oh, ça, à quoi songes-tu ? » me demanda-t-il avec colère. « Qu'est-ce que tu es ? As-tu un domicile ? As-tu un père, une mère ? As-tu des parents, une propriété ? Qu'est-ce que tu es sur la terre ? Tu t'imagines que tu es un homme ? Moi, je suis un homme. Moi qui possède tout cela. » Il se frappa la poitrine. « Moi, je suis un prince. Mais toi, toi, tu n'es rien du tout. Rien ne t'appartient. » Tu affirmes, je suis cela. Qui peut le prouver ? Moi, je suis connu à Koutaïs, à Tifli, comprends-tu ? Ne va pas à l'encontre de ma volonté. Tu me sers, tu seras satisfait. Je te paierai 10 fois le prix de tes services. Qu'est-ce que tu as fait pour moi ? Il t'est impossible d'agir différemment. Tu déclares toi-même que Dieu ordonne qu'on oblige son prochain sans espoir de récompense. Pourtant, moi, je te paierai. « De quel droit me tourmentes-tu ? Tu prétends me faire de la morale, m'effrayer ? Tu veux que je sois pareil à toi ? Cela ne doit pas être. Tu n'as pas le droit de me rabaisser à être ton égal. »« Ah, fi !» Fi.
Il discourait, bafouillait, étouffait, soupirait. Je le considérais fixement, bouche bée de surprise. Il était évident qu'il se soulageait d'un excès d'indignation, de rancœur et de mécontentement accumulé durant tout notre voyage. Pour mieux me faire comprendre, il m'appuyait le doigt sur la poitrine, me secouait par les épaules, et aux passages les plus sensationnels de sa harangue, il se laissait tomber sur moi de tout son poids. Nous étions inondés de pluie. Le tonnerre faisait rage au-dessus de nos têtes, et Charcot, pour se faire entendre, hurlait de toute sa voix. Je saisis tout ce que la situation avait de grotesquement tragique, et j'éclatai de rire. Alors Charcot se détourna de moi en crachant de mépris. Chapitre 9. Charcot se montrait de plus en plus renfermé et taciturne au fur et à mesure que nous approchions de Tiflis. Son visage amaigri, mais toujours aussi impassible, s'était modifié. Un peu avant Vladiskavska, nous rencontrâmes une ferme de Tcherkès et nous nous fîmes engager pour la récolte du maïs. Nous travaillâmes 2 jours chez ces Tcherkès, qui parlaient à peine le russe, nous raillaient, nous insultaient dans leur patois. Devant l'antipathie grandissante des naturels, nous résolûmes de partir. Nous avions parcouru environ 10 verstes lorsque Charcot, sortant de dessous sa blouse une pièce de mousseline, la brandit devant moi triomphalement en disant « Fini de travailler, nous allons vendre cela et nous achèterons ce qui nous est nécessaire. Nous aurons de quoi aller jusqu'à Tiflis. Comprends-tu ?» J'étais comme fou d'indignation. Je lui arrachai la mousseline, je la lançai de côté et je jetai un regard derrière nous. Les Tcherkès n'entendent point la plaisanterie. Quelques jours auparavant, les Cosaques nous avaient raconté l'histoire suivante. Un vagabond, en s'en allant d'une ferme où il avait travaillé, avait emporté une cuillère de fer. Les Tcherkès le rejoignirent, le fouillèrent et trouvèrent l'objet sur lui. Ils ouvrirent alors le ventre du voleur d'un coup de poignard. Ils enfoncèrent la cuillère dans la plaie et s'enfuirent tranquillement, abandonnant dans la steppe le malheureux que les Cosaques trouvèrent à demi-mort. Lui-même leur narra son aventure et expira tandis qu'on le transportait au village. Les Cosaques avaient insisté à plusieurs reprises pour nous conseiller de nous méfier des Tcherkès, accompagnant ses avis de quelques anecdotes du même genre que la précédente et que je n'avais aucune raison de ne pas tenir pour véridique. Je rappelais tout cela à Charcot. Il restait devant moi et m'écoutait. Mais soudain, sans un mot, il s'élança sur moi et d'un bond, comme un chat, montrant les dents et les yeux à demi fermés. Durant 5 minutes, nous nous cognâmes dur, puis Charcot me cria d'un ton furieux « Ça suffit !» Nous demeurions, assis en silence, en face l'un de l'autre, et très fatigués tous les deux. Charcot eut un regard désolé dans la direction de l'endroit où j'avais jeté sa mousseline rouge, et dit enfin « À propos de quoi nous sommes-nous battus ?»« Ah, fi, c'est idiot! Est-ce que c'est toi que j'ai volé? C'est toi qui travailles? Moi, je ne puis pas travailler. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire? Je voulais te venir en aide. Tchè, tchè. » Je m'efforçais de lui faire comprendre tout ce qu'il y a de honteux dans le vol. « Ah, tais-toi, je t'en supplie !» me dit-il d'un ton méprisant. Puis il m'expliqua. « Tu as la tête dure comme une souche. Si tu te sentais près de mourir, tu volerais bien, n'est-ce pas? Or, ceci est-il une existence ?»« Ah, tais-toi !» Ne voulant pas réveiller sa fureur, je me tus. C'était la seconde fois qu'il volait. Une fois déjà, alors que nous étions sur les côtes de la mer Noire, il avait pris à des pêcheurs grecs une petite balance portative. Ce jour-là également, nous avions été sur le point d'en venir aux mains. Lorsque nous eûmes, l'un et l'autre, retrouvé notre calme, et que, reposés, nous eûmes fait la paix, « Allons, dit-il, marchons. » Nous reprîmes notre route. De jour en jour, Charcot se faisait plus ténébreux. Il me jetait des regards étranges et sournois. Comme nous venions de franchir les gorges du Darial et que nous descendions la vallée du Goudaour, il me dit
D'ici un jour ou deux, nous serons à Tiflis. »
Il fit claquer la langue. Tchè, tchè.
Et parut tout joyeux. Il reprit. « J'arriverai à la maison. »«
Où as-tu été ?»« J'ai voyagé. » »«
J'irai prendre un bain, je mangerai beaucoup. »« Ah oui, beaucoup. » »« Je dirai à ma mère, j'ai grand faim. » »« Et à mon père, pardonne-moi, j'ai eu bien de la misère. »« J'ai vu bien des choses très différentes. »« Les va-nu-pieds sont de bons diables. » « Quand j'en rencontrerai un, je lui ferai cadeau d'un rouble. Je le mènerai dans un cabaret et je lui dirai « Bois du vin. Moi aussi, j'ai été un vagabond. » « Puis je parlerai de toi, mon père. Vois cet homme. Il a été pour moi comme un frère aîné. Il m'a fait de la morale. Il m'a battu, l'animal. « Maintenant, lui dirai-je, c'est à ton tour de le nourrir pendant un an. Un an au moins. » « M'entends-tu, Maxime ?»
J'étais heureux de l'entendre parler de la sorte. Il y avait en lui, à ce moment, quelque chose de simple et de naïf. En outre, ses déclarations me plaisaient, d'autant plus que je n'avais aucune relation à Tiflis et que l'hiver était proche. Déjà, les premières rafles nous avaient éprouvées en descendant le Goudaour. Charcot m'inspirait d'une certaine confiance. Nous hâtions notre marche. Voici Mché, l'ancienne capitale de Libérie. Demain, nous serons à Tiflis. D'une distance de 5 verstes environ, j'aperçus dans le lointain la capitale du Caucase, encaissée entre 2 montagnes. C'était le terme du voyage. Je me sentais vaguement heureux. Charcot paraissait indifférent. Il fixait devant lui des regards hébétés, crachait de temps en temps comme un homme qui a faim et grimaçait de douleur, continuellement, et se tenant le ventre. Il avait commis l'imprudence, en route, de cueillir et de manger des carottes crues, en quantité excessive. T'imagines-tu que moi, un prince géorgien, je vais rentrer dans ma ville en plein jour, dégoûtant et déguenillé comme je le suis? Non, nous attendrons le soir. Arrêtons-nous. Nous fîmes halte contre le mur d'un bâtiment inoccupé. Nous roulâmes l'un et l'autre une dernière cigarette et nous nous mîmes à fumer, tout en grelottant. Un vent violent et coupant balayait la route stratégique de Géorgie. Charcot, assis, fredonnait entre ses dents un refrain mélancolique. Moi, je rêvais d'une chambre chaude et des autres avantages d'une existence rangée sur une existence vagabonde. Allons, dit Charcot d'un air résolu en se mettant debout. Le jour était tombé, des lumières brillaient dans la ville, le spectacle était joli. Les uns après les autres, des feux surgissaient, on ne savait d'où, trouant l'obscurité dans laquelle était plongée la vallée où la cité était cachée. « Écoute, donne-moi ton bachelik pour me cacher la figure. De cette façon, mes amis ne me reconnaîtront peut-être pas. » Je lui donnai mon bachelik. Nous étions dans la rue Olguenskaya. Charcot sifflait avec assurance. « Maxime, tu vois là-bas la station des tramways et le pont? Vas-y, attends-moi. Attends-moi, je t'en prie. Je vais aller dans une maison, demander à un ami des nouvelles de mes parents, de mon père, de ma mère. Tu ne seras pas longtemps? 1 minute, je reviens. » Il pénétra dans une ruelle étroite et sombre et y disparut. Pour toujours. Jamais plus je ne revis cet homme qui avait été mon compagnon durant près de 4 mois de ma vie. Mais il m'arrive souvent de penser à lui, sans rancune et avec un rire joyeux. Par lui, j'ai appris bien des choses qu'on n'apprend pas dans les plus gros livres écrits par les sages, parce que la philosophie de la vie est toujours plus profonde et plus large que la philosophie des hommes.